Vous êtes sur RTL.
Et c'est l'heure de RTL Soir avec vous, Stéphane Carpentier.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos tout en direct avec à la une ce soir une question. La nuit d'Halloween devient-elle après celle de la Saint-Sylvestre l'autre temps fort des violences urbaines? Ça a été le cas hier soir en Ile-de-France, dans les Yvelines et en Seine-Saint-Denis avec des policiers pris pour cible. À Toulouse, Castres, Pau, des véhicules et des poubelles incendiées. Pire encore, à Béziers, des incendies criminels ont détruit des classes d'écoles et de collèges. Résumé complet. Des faits, bien sûr, dans un instant, dans RTL Soir. Une offense à la République, a tweeté le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Même refrain chez Robert Ménard, le maire de Béziers, vous l'entendrez dans RTL Soir. Il se dit écœuré. C'est de votre faute, va lui répondre Jean-Pierre Grand, le sénateur de l'Hérault, sera en ligne avec nous dans 5 minutes. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir, première édition avec vous, Philippe Robuchon, bonsoir.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Et les autres titres.
La première sortie du nouveau patron de la SNCF, loin des caméra, Jean-Pierre Farandou, est allé à la rencontre des cheminots ce matin près de la gare de l'Est à Paris. Elles s'appellent Bissi et Eyenga, deux petites sœurs siamoises d'à peine un an sont arrivées à Lyon ce matin. Venues du Cameroun, elles vont être opérées la semaine prochaine grâce à un formidable élan de solidarité.
Et c'est l'occasion d'en parler avec le professeur Alain Deloche, fondateur de la chaîne de l'espoir qui prend en charge les siamoises jusqu'à l'opération à risque. Il sera en direct notre invité tout à l'heure à 18h20.
Dans l'actualité également, l'une des plus grosse manifestation qu'est connue Alger. Ils étaient des centaines de milliers aujourd'hui dans les rues de la capitale, toujours contre le régime. Nous irons sur place. Et puis le tennis, deux Français jouent ce soir pour une place en demi-finale du Masters 1000 à Paris-Bercy. Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga. La Bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,56%. Le CAC 40 s'établit à 5761 points. Les courses à Compiègne pour le Quintet. Il fallait jouer le 9, le 4, le 2, le 12 et le 13.
Vos rendez-vous d'ici 20h sur RTL, 18h50 tout à l'heure, la semaine politique avec ce 1er novembre, ce sera Olivier Mazerolle. Et puis à 19h15, à ne pas manquer, on défait le monde comme tous les vendredis soirs. La météo de Toussaint, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Alors demain, ce sera encore plus médiocre.
Ouais, ça commence à souffler demain. Dès demain matin d'ailleurs, le long des côtes de la Manche, avec des rafales de vent de l'ordre de 100 à 110 km/h en pointe, tout cela assorti de pluies qui vont traverser tout le territoire. On va quand même surveiller la Corse demain en deuxième partie de journée où ça pourrait tomber dru, notamment sur la région balagnaise. Et puis avec tout cela, les températures seront relativement douces malgré tout. 12 degrés attendus à Rouen, 13 à Nantes, 15 à Paris, 16 à Nevers et Besançon, 18 à Toulouse, 19 à Marseille. Ce sera encore un petit peu plus violent dimanche où on attend une tempête près de l'Atlantique.
Merci Valérie.
Les départs et les retours du week-end de la Toussaint, il y avait beaucoup de monde hier soir. Comment ça se passe ce soir, Pierre Collat?
Eh bien, si vous nous écoutez à Toulouse sur le périphérique intérieur, attention à cet accident entre deux voitures. C'est juste après la sortie 33 Sesquer en direction de Bordeaux. Les secours sont en intervention. Et puis je vous signale un autre accident sur l'A87. C'est au kilomètre 11 avant d'arriver à Angers. Il y a un ralentissement de 12 km en amont. C'est à hauteur de la sortie 22 Brissac.
Positif Medical CR. RTL Soir.
Toute l'actualité donc avec Philippe Robuchon et cette question, les soirées d'Halloween vont-elles être bientôt aussi redoutées que les premiers de l'an? À Béziers, les dégâts sont impressionnants et on revient à la nuit dernière.
Une école primaire quasiment détruite, deux classes d'une école voisine incendiées, sans compter des voitures brûlées, des policiers, des pompiers caillassés. La ville dirigée par Robert Ménard a connu des violences sans précédent. Bonsoir Morad Djabari.
Bonsoir.
Conséquence directe de ces violences, plus de 200 élèves ne pourront pas aller en classe lundi matin.
Effectivement, un incendie criminel a complètement ravagé l'école primaire des Tamaris. Plus de 10 classes sont endommagées, d'après le directeur de l'école Jean-François Klein. Et puis, deux classes de maternelle sont complètement détruites.
C'est une destruction totale de ces deux classes. Et un peu plus loin, les autres classes sont bien touchées. Il n'y a vraiment aucune capacité d'accueil pour un enfant ou même pour une classe, quel que soit l'endroit de l'école. Voilà, les dégâts sont très, très importants. Il y a un sentiment vraiment de colère et cette impuissance. C'est vraiment quelque chose de terrible.
Donc 228 élèves n'ont plus d'école à 7h. Aucune réparation possible d'après les pompiers. Suite à la chaleur, la charpente risque de s'effondrer. Cet incendie s'est propagé aussi au collège voisins. Deux classes sont en partie brûlées. Dès lundi et pendant une semaine, un service minimum d'accueil sera assuré, même si le directeur conseille aux parents de garder les enfants à la maison. La semaine suivante, les élèves seront dispatchés dans des écoles de la ville. Des incendies intolérables pour le maire Robert Ménard.
Mettre le feu à une école, c'est un crime, ça n'a pas d'autre nom. Comment un certain nombre de ces personnes peuvent s'attaquer comme ça à une école? On fera évidemment tout pour savoir ce qui s'est passé le plus rapidement possible et il faut les châtier. châtier comme il le mérite, les condamner comme il faut.
Évidemment, une enquête a été ouverte. Il n'y a aucune interpellation pour le moment.
Voilà, récit information pour RTL ce soir, Morad Djabari.
Premier invité de ce journal, Jean-Pierre Grand. Bonsoir.
Bonsoir.
Sénateur gaulliste de l'Hérault. Soirée d'Halloween, on le disait, à Béziers, particulièrement violente. Des saccages importants, impressionnants. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Je trouve que détruire des établissements scolaires, agresser des forces de l'ordre, c'est une situation que personne ne peut accepter, en tous les cas, et surtout pas la République. C'est pas la fête, ça, c'est inacceptable. Bon, ça m'inspire, si vous voulez, quand même, une crainte que ces choses-là se banalisent.
Qui est responsable, monsieur Grand, de cette situation ? On sait que ça s'est passé dans le quartier difficile de la Devèze. Qui est responsable ? C'est l'État ? C'est la ville ?
C'est un quartier qui doit être à la fois soutenu, observé, parce qu'il y a bien sûr de mauvaises influences, comme dans beaucoup de quartiers. Béziers, c'est une ville où tout avait été promis par le maire d'extrême droite, M. Ménard, et en fait, aucun des grands problèmes de sécurité, de chômage, et surtout du vivre ensemble, n'a été réglé. La politique de communication souvent se transforme en provocation, et c'est reçu comme ça dans certains quartiers. Les élus locaux, ils ont un rôle d'amortisseur social. Robert Ménard, il soigne son électorat, mais il soigne pas sa ville.
Selon vous, il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé la nuit dernière ?
Ah oui, il a une part de responsabilité, oui, effectivement. Mais il est responsable d'un climat. Quand vous faites une communication, comme ça a été fait à Béziers il y a quelque temps, avec un revolver, un policier, un revolver, et qu'il montre le revolver, on dit c'est mon ami, c'est pas intelligent. Dans les quartiers, il faut être toujours très très vigilant. Le maire, c'est pas un shérif.
Mais monsieur Grand, Robert Ménard dit que depuis 25 ans, la ville et l'État ont investi 300 millions d'euros dans ce quartier et que ça n'a manifestement pas suffi. Que faut-il faire de plus ?
Il y a peut-être un moment dans la vie où il faut faire le point de la situation. Moi, je crois qu'il faut avoir, sur le problème de Béziers, le même regard qu'on a sur les autres cités, c'est-à-dire un regard d'ensemble. Vous savez, je pourrais proposer, par exemple, à quelques collègues parlementaires du secteur, que nous fassions une étude, une enquête. En plus, un des parlementaires de Béziers, du secteur, est Mme Ménard. Donc, vous voyez, on ne pourrait pas nous accuser de sectarisme. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes sur le terrain un peu l'analyse de la situation et qu'on fasse des propositions qui soient des propositions de sagesse et aussi des propositions d'expérience.
Merci, monsieur Jean-Pierre Grand, d'avoir été l'invité de ce journal. Je rappelle que vous êtes sénateur gaulliste de l'Hérault. Merci à vous.
Merci.
À Marseille, l'auteur de la fusillade qui a fait 6 blessés hier soir dans les quartiers nord est toujours en fuite. Il a ouvert le feu sur des clients avec un fusil à pompe. Un blessé est toujours dans un état grave, mais ses jours ne sont plus en danger. À Bayonne, 400 fidèles ont assisté ce matin à la mosquée à la prière du vendredi, 5 jours après l'attaque qui a fait 2 blessés. Les fidèles ont écouté dans le calme un prêche sur la tolérance.
Dans le reste de l'actualité, Philippe, pour la première fois depuis 12 ans, Guillaume Pépin n'est plus PDG de la SNCF.
Et non, puisqu'il a laissé ce matin la place à son successeur, Jean-Pierre Farandou, âgé de 62 ans, natif du Sud-Ouest. Ce dernier a gravi tous les échelons de l'entreprise. Il arrive évidemment à un moment difficile, en pleine grève et alors que se profile la réforme des retraites tant redoutée. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Le nouveau patron pour ses premières heures à la tête de l'entreprise a choisi la discrétion. Il a rencontré des cheminots ce matin, mais loin des caméras.
Oui, puisqu'il a choisi lui-même le Centre National des Opérations Ferroviaires. Il est situé juste à côté de la gare de l'Est. C'est en quelque sorte la tour de contrôle du ferroviaire français. Des écrans partout sous une immense verrière. Il est allé saluer les personnels qui se relaient dans cette salle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Manière pour lui de montrer qu'il est déjà avec les salariés dès le début de son mandat. Mais pas de rencontre avec le personnel dans les gares pour le moment. Dans la salle, des visages amis qu'il connaît déjà, puisque Jean-Pierre Farandou a rejoint la SNCF en 1981. À 62 ans, il était depuis 2012 le patron de Keolis, une branche du groupe ferroviaire français. Aujourd'hui, il s'est également installé dans le bureau de son prédécesseur, Guillaume Pépi, au siège à Saint-Denis, avec une vue sur les rails d'ailleurs. Puis il a enchaîné les réunions toute l'après-midi. Il prépare en fait sa journée de lundi avec au programme la toute première séance du directoire. Puis ensuite, il verra les 3 comités exécutifs qui composent la SNCF. Et il y a du changement aussi dans les équipes. Jean-Pierre Farandou s'est entouré aujourd'hui d'employés qu'il connaît bien. Il doit former son cabinet et donc sa garde rapprochée dans les prochains jours.
Arnaud Touche du service économique de RTL.
Vous restez bien avec nous dans un instant. La suite de RTL Soir avec la belle histoire de 2 petites sœurs venues du Cameroun. Leurs corps sont attachés l'un à l'autre et elles vont être opérées en France la semaine prochaine.
Il est 18h10. RTL Soir. Vous écoutez RTL Soir avec Stéphane Carpentier et la suite du journal de Philippe Robuchon.
Elles sont arrivées dans les bras de leur mère. Bissi et Eyenga, deux petites sœurs âgées d'à peine un an, ont atterri ce matin à Lyon en provenance du Cameroun. Elles vont être opérées la semaine prochaine en France.
Le destin a voulu qu'elles naissent attachées l'une à l'autre au niveau de l'abdomen. Elles sont donc siamoises et c'est grâce à un formidable élan de solidarité qu'elles vont pouvoir être opérées jeudi prochain à Lyon. Après l'opération, elles séjourneront pendant un mois et demi dans une famille d'accueil. Julien, le père de cette famille d'accueil, était évidemment là ce matin pour les accueillir.
On a préparé, oui, une chambre pour la maman avec les enfants. J'ai pas réfléchi longtemps. C'était pour moi une évidence de trouver toutes les solutions pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. C'est quand même un petit peu l'inconnu pour nous. C'est des choses qu'on voit à la télé, mais là, les avoir à la maison, c'est quand même un petit peu stressant. On a déjà accueilli des enfants avec des pathologies cardiaques à la maison. C'est magique, on crée des liens. Nous, on les accueille, c'est comme nos enfants. Encore maintenant, on est en contact avec eux. Et si on pouvait les avoir à la maison dans des conditions autre que pour une opération, ça serait merveilleux si on pouvait le faire encore.
Le père de la famille d'accueil lyonnaise qui hébergera Bissi et Eyenga, les deux petites sœurs siamoises. Il était au micro de Nerissa Emmanuel.
L'actualité à l'étranger, Philippe, avec une foule considérable aujourd'hui dans les rues d'Alger.
Énorme mobilisation en effet pour le 37e vendredi consécutif dans le cortège des Algériens venus de tout le pays pour dénoncer l'inaction du gouvernement. On ne voit pas très bien d'ailleurs comment va pouvoir se dérouler l'élection présidentielle prévue le 12 décembre. Le rassemblement d'aujourd'hui coïncidait avec le 65e anniversaire du début de la lutte armée contre le colonisateur français. À Alger, pour RTL, Reda Menassel.
1er novembre 62, 1er novembre 2019. Le parallèle était évident pour les centaines de milliers d'Algériens qui ont afflué dans la nuit vers la capitale pour participer à cette 37e manifestation qui coïncide avec le 65e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. La foule nombreuse, encadrée par un impressionnant dispositif policier, a scandé les slogans habituels du Hirak, mais avec une énergie renouvelée. État civil non militaire, pas d'élection cette année, et libérer les détenus d'opinion. Marouane, militant associatif.
Ce pouvoir est défaillant. Il a tout raté de 62 jusqu'à maintenant. Il a mené l'Algérie à la faillite. Faut qu'il parte. Ils sont pas bons, ils sont défaillants.
A noter que la manifestation s'est déroulée avec calme et organisation et aucun incident n'a été signalé.
Reda Menassel à Alger pour RTL. C'est confirmé, la COP25, la Confédération internationale sur le climat, se tiendra bien en Espagne début décembre, à Madrid, et non pas au Chili, comme c'était prévu. Santiago a préféré renoncer en raison de la crise sociale qui secoue le pays.
Les sports, Philippe, et le tennis, on connaît la première affiche des demi-finales du Masters 1000 de Paris-Bercy.
Il n'a fallu que 58 minutes à Novak Djokovic pour éliminer en 2-7 le grec Tsitsipas. De son côté, le russe Grigor Dimitrov a battu le chilien Garin 6-2-7-5. L'autre demi-finale, on l'espère, pourrait être franco-française, rêvons un peu. Pour ça, il faut que ce soir, Joe Wilfried Tsonga élimine Nadal et que Gaël Monfils vienne à bout du Canadien Chapovalov. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
Il y a beaucoup d'enjeux dans ces deux matchs, mais alors pour Gaël Monfils, enjeux financiers notamment.
Ce quart de finale vaut très cher effectivement pour Gaël Monfils. S'il bat Denis Shapovalov ce soir, il sera qualifié pour le Masters de Londres. Le tournoi des maîtres qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison est un vrai jackpot pour les 8 privilégiés qui touchent près de 215 000 dollars rien que pour disputer l'événement. Pour celui qui l'emporte et ne perd aucun match, c'est un chèque de 2,8 millions. Effectivement, c'est motivant. Plus qu'une cerise sur le gâteau comme le disait hier Monfils. Après sa victoire poussive contre le Moldave Albot, le Parisien était extrêmement soulagé car il est assuré d'aller terminer la saison dans le top 10 mondial. Là aussi, ça veut dire banco. L'ATP qui régit le circuit masculin offre en effet une prime de classement aux 12 meilleurs joueurs en fin de saison. Pour la Monf, ça représente 250 000 dollars en plus. Il va certainement toucher également un bonus de ses sponsors. Enfin, c'est tout bénef pour la saison prochaine car les tournois hors Grand Chelem et Masters 1000 qui voudront en faire leur tête d'affiche devront s'acquitter d'une garantie à plusieurs zéros sur le chèque. Bref, vous l'aurez compris, c'est un peu Noël avant l'heure pour le numéro 1 tricolore.
Isabelle Langer à Bercy pour RTL et petite correction, Dimitrov est bulgare et pas russe, rien ne vous échappe Stéphane. En rugby, la Nouvelle-Zélande termine 3e du mondial, les All Blacks ont battu les Gallois ce matin 40-17, demain matin, grande finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Et puis en football, début ce soir de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Dijon, la lanterne rouge, coup d'envoi 20h45.
On a un coup de fil de Dimitrov, il n'est pas franchement content. Enfin voilà, vous arrangerez avec lui.
Pardon Dimitri.
Vous revenez tout à l'heure à 18h30 pour toute l'actualité. Philippe Robuchon, RTL.fr pour tout savoir. Vous allez cliquer quand vous voulez. Vous restez bien avec nous. Arrive en direct dans ce studio le professeur Alain Deloche. En direct avec nous, chirurgien cardiaque, fondateur de la chaîne de l'espoir. Il gère la venue en France de siamoises camerounaises qui doivent être opérées, séparées la semaine prochaine à Lyon. Une intervention à risque, au pluriel, bien sûr. On va en parler avec lui dans un instant.
18h16, RTL Soir.